Bienvenue à Sur la ligne, cette émission tout tennis. Cette semaine, on parle du Canada qui s'est qualifié à la Coupe Davis. On en parle avec Izad Gino. On va également parler de Eugénie Bouchard et de Rebecca Marino à Chennai. Roger Federer annonce sa retraite. Est-il le plus grand de l'histoire? Et justement, on commence à regarder vers la Coupe Davis. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui.
C'est parti.
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Radio Podcast sur la ligne. Des fois, on dit qu'après le US Open, c'est plus tranquille, ça a pas été tranquille cette semaine, messieurs. Bien hâte de discuter de tout ce qui s'est passé avec vous, mais dans un premier temps, Nicolas Richard, il commence à faire trop froid pour que tu puisses faire l'épisode dehors. Est-ce que c'est ce que j'en comprends?
Surtout très humide à l'extérieur à Saint-Jérôme, beaucoup de pluie. Alors, c'est ce qui explique mon retrait à l'intérieur. Ronde de golf annulée ce matin, par ailleurs, au 8e. Ils nous ont dit, les garçons, rentrez au vestiaire, c'est terminé votre journée. Alors, je suis à l'abri au sec pour parler de tennis.
Bon, ben écoute, désolé pour ta ronde de golf. Ça t'a laissé le temps de préparer des articles peut-être supplémentaires pour les fans de la presse. Je le rappelle que tu étais un journaliste à la presse. Hugues Léger, je t'ai dit hors d'onde que j'ai hâte de te retrouver au Montville. Ça me manque d'être à tes côtés. C'est le début de la saison de hockey cette semaine. Alors, pour moi, c'est un peu éveillé, mais j'ai bien, bien hâte de te retrouver. Comment vas-tu, mon cher Hugues? Avant que tu me répondes, il va falloir que tu démutes ton micro, par contre.
Ça va très bien, Alex. Voilà. On s'ennuie un peu au Montville. Là, au bar tout seul en ce moment. Non, c'est vrai que c'est toujours mieux quand on peut faire ça ensemble là, et qu'on peut échanger, mais bon, on va parler de tennis quand même. Il n'y a pas de problème, mais je vais prendre un deuxième café en ton honneur.
Ça, c'est ici Alex Marpan en cours de tournage.
j'ai muté mon micro quelques instants parce que le café a passé dans le trou d'air, messieurs, et ben c'est ça, parlant de café. Non, mais je suis sérieux, j'aime ma petite routine au Montville. Si vous avez une chance d'aller déjeuner à l'hôtel Montville, ça peut valoir la peine. Là. Les déjeuners sont excellents. Je me gêne pas pour commencer ma journée quand on travaille là-bas au Montville. Alors, ben voilà, j'ai bien hâte de te retrouver. Messieurs, parlant de retrouver quelqu'un, on a un collaborateur que ça fait un bout qu'on n'a pas vu au podcast, au radio podcast sur la ligne. J'invite à se joindre à la conversation Izad Gino qui va faire le débrief de la semaine avec nous de ce qui s'est passé dans la planète tennis et particulièrement de la Coupe Davis. Comment ça va, Izad Gino, le nouveau papa?
Hey, ça va super bien, merci. Ouais, j'avais premier rendez-vous avec vous depuis que je suis papa, en effet. Ça fait du bien.
Mais ce qu'on doit dire aux gens, c'est que tu étais censé être avec nous assez régulièrement durant l'Omnium Banque Nationale, mais comme tu es un joueur de tennis, tu as décidé de faire naître ton enfant directement durant l'Omnium Banque Nationale. Tu es très cohérent. Félicitations au nom de tout le podcast. Et on est bien content de te revoir. On espère que tu es en forme et que toute la famille se porte bien.
Oui, merci beaucoup. Super gentil.
Messieurs, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. On va parler de la Coupe Davis notamment. D'ailleurs, il y a déjà du monde qui nous écrivent en direct. Selon vous, est-ce que la performance de Félix contre Alcaraz à la Coupe Davis est encourageante? Ben, on va en parler. Jackie, tu peux être sûr de ça. Je pense que c'est difficile de voir que c'est pas encourageant. Votre bilan, messieurs, de cette Coupe Davis-là qui est partie... un peu bizarrement contre la Corée. Je ne sais pas si vous avez eu le même feeling que moi. Nico, t'en penses quoi?
Oui, c'est parti un petit peu sur les chapeaux de roue. À vrai dire, c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'on l'aurait pensé dès le départ. Mais après ça, l'équipe s'est tellement bien reprise. Et on parlait, les gars, souvenez-vous, de cette chimie-là entre les trois Québécois, les quatre francophones, parce que Vachek est un petit peu un demi-Québécois, là, tellement il aime passer de sang à Montréal et tellement il parle bien français. Donc, on parlait beaucoup de cette chimie-là. Et Alexis Gallarneau nous disait que c'était peut-être la plus grande force de cette équipe-là. Et je pense que ça a paru notamment contre une Espagne extrêmement forte, avec une équipe redoutable. on a très, très bien paru et les gars, je pense, peuvent être fiers de leur performance.
Un commentaire général sur cette performance du Canada à la Coupe à Davis. On s'en parlait, le groupe était compliqué. Ouais. On savait qu'on avait des chances, mais il n'y avait rien d'acquis. Là.
Ben, premièrement, on se qualifie pour les quarts de finale pour les 8 premières nations du tennis dont on fait partie maintenant. Le classement du Canada en ce moment à la Coupe Davis, c'est 6e mondial. Donc, on a fait honneur à notre classement encore cette année. C'était un choix de dernière minute que Félix se joigne à l'équipe. Hein. C'était pas prévu et c'est une bonne nouvelle qui a pu être là. Il a été chercher 2 points extrêmement importants. Puis oui, c'est une belle victoire. On finit 2e du groupe au final avec l'Espagne qui finit premier. Les deux pays se retrouveront donc à Malaga pour les finales à la fin novembre. Mais oui, Félix, c'est étrangement, comme c'est souvent le cas, ses débuts de tournoi sont difficiles. Donc, il perd son premier match contre la Corée, mais tranquillement, il s'est remis au bon rythme et il a fini en force. Et ses 2 points ont été, je dirais, des faits saillants là, au niveau de notre performance en Coupe Davis cette année. On peut être très content. Ce qui fait que les gars et les filles se retrouvent en phase finale des Coupes par pays parce qu'on sera en finale des Billie Jean King Cup aussi du côté féminin.
Et c'est intéressant qu'il y ait un certain accent qui est mis sur la Coupe Davis parce qu'on a appris que la Coupe ATP change de format là, si on veut. Alors, ouais. La Coupe Davis va rester un peu comme la Coupe du monde traditionnelle masculine, disons-le, comme ça.
Malgré leurs difficultés, il faudra en parler parce que les assistants ont eu l'air un peu faméliques la semaine dernière.
Et Marion Bartoli s'est pas gêné une fois de plus pour commenter le format. Bon, le format Coupe du monde est peut-être à revoir. Là. C'est un peu le reproche qu'on faisait à la Coupe Davis, c'est-à-dire que c'est difficile de garder l'intérêt des gens sur un an complet. Isard, commentaire sur cette Coupe Davis. L'as-tu déjà joué, toi, la Coupe? As-tu déjà été remplaçant? As-tu déjà fait partie de l'équipe canadienne?
J'ai représenté le Canada à plusieurs reprises, mais seulement dans les juniors. J'ai jamais joué pour la Coupe Davis là, en tant que telle. J'avais joué les Jeux olympiques universitaires pour le Canada, puis j'ai joué la Coupe Davis junior là, dans les 16 ans, puis dans les 14 ans et moins. On avait été en République tchèque, mais jamais la Coupe Davis officielle, non.
Quand même. Es-tu allé comme entraîneur pour accompagner les Bulls?
J'ai suivi la Fed Cup. J'ai jamais suivi la Coupe Davis, mais j'ai suivi la Fed Cup. J'ai fait partie de 3 tailles. Fait que j'ai un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Puis cette semaine, bon, j'ai eu la chance de regarder les matchs à la télévision contre la Corée, contre l'Espagne, puis contre la Serbie. Le Canada. J'ai été surpris par quelques décisions à quelques reprises durant la semaine, mais au final, bon, on a le résultat qu'on veut, on se qualifie. C'est sûr que j'aurais aimé ça que le double, on mette quelqu'un d'autre que Vachek, sachant qu'il était blessé. Ouais. Pour peut-être avoir la chance de finir premier, bon, il aurait joué la Croatie au lieu de jouer l'Allemagne, ça peut peut-être faire une différence au bout du compte. Mais bon, après, on va voir quelle équipe qu'ils vont avoir en place pour Malaga. On s'entend que le Canada, pour contre n'importe qui peut gagner, là, que ce soit la Croatie ou l'Allemagne. Là. Mais ouais, en général, ça a été une très belle semaine. Vachek m'a surpris dans son premier match contre la Corée. Il n'a pas une très, très bonne année. Ouais. Bon, au début, j'étais un petit peu sceptique du choix. J'aurais pensé qu'Alexis aurait pu commencer la rencontre. Bon, après, on n'est pas sur les lieux. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe non plus là-bas. Hein. Puis bon, c'est sûr que Félix, c'était un petit peu décevant contre Kwon, mais ils sont tough les Coréens, puis ouais. On s'en est bien sorti aller chercher la victoire contre l'Espagne, puis le match là, qu'il nous fallait là, contre la Serbie, donc au final, c'est bon.
Ouais, ben puis bon, je comprends que tu dis bon, ça aurait été le fun de finir premier du classement, mais en même temps, j'ai l'impression que plus on va avancer dans le tournoi, plus on va avoir l'équipe A. J'ai l'impression. Alors qu'on affronte l'Allemagne, je pense que s'il fallait que Chapeau se joigne à Félix, parce que mon feeling, à moins que je me trompe, là, c'est que Félix n'est pas allé là juste pour jouer les quarts de finale. Puis là, si on gagne, il va se rendre jusqu'au bout, j'ai l'impression. Oh, ouais. En tout cas, je me trompe peut-être. Mais,
non, il y avait l'air de dire qu'il était là pour rester, Félix, en tout cas, de la manière qu'il parle.
Puis si on peut avoir un Chapeau qui s'y joint, on n'aura pas peur des Allemands, puis on n'aura pas peur de peu importe qui va se retrouver devant nous après par la suite. Ben, moi, je suis assez d'accord avec vous, messieurs. Ça aurait été le fun de voir le Canada premier, mais en même temps, je pense que c'est très, très, très satisfaisant parce qu'il était dans un groupe très fort, le Canada, avec, bon, tu l'as dit, la Serbie. Tu sais, la Serbie, c'était peut-être
sans Djokovic, par contre.
Hein. Sans Djoko, t'as raison. Sans Djoko, mais c'était quand même une bonne équipe de double. Ouais. Et c'était quand même, bon, Kecmanovic, c'est pas un mauvais joueur non plus, là. Bon.
Djoko, il est là, c'est une autre histoire, là, par contre. On sort peut-être pas du groupe.
Ben ouais, c'est ça, peut-être pas. En même temps, c'est difficile parce que bon, peut-être que bon, Alcaraz l'aurait peut-être enfin.
C'est sûr.
Difficile à dire. Bon, il y a du monde qui sont en direct avec nous. Chucky qui nous dit, selon moi, le problème est que les finales sont à un seul endroit, ça enlève l'intérêt quand le pays hôte n'est pas là. Ben évidemment, sur le pour le pays local, effectivement, eux, j'ai l'impression que ça peut jouer. Mais est-ce que d'un point de vue télévisuel mondial, ça change quelque chose de façon significative?
Ben oui, dans la mesure où quand tu montes un show télévisé devant des estrades vides, ça affecte l'expérience du téléspectateur aussi. Donc, moi, je pense qu'ils sont encore une fois dans une remise en question. Au niveau du format, ils se cherchent un peu. La compétition semble avoir perdu un peu de son lustre. Et il y a des fenêtres qui sont dures à gérer. Celle après l'US Open, généralement, les joueurs qui se rendent très loin ont souvent fait l'impasse sur la fenêtre de fin septembre en Coupe Davis. On est chanceux d'avoir vu Alcaraz, qui était peut-être pas à 100%, sans diminuer ce que Félix a accompli. Là. Je veux bien peser mes mots là-dessus, mais il sort de deux semaines éprouvantes, Alcaraz. Il fait ses engagements médias le lundi à New York. Il arrive à Valence le mardi, au milieu de semaine. C'était pas évident pour lui non plus. Donc le format de Coupe Davis, c'est pas évident, tant pour les spectateurs que pour les téléspectateurs. Et effectivement, tout dépend du pays où aura lieu cette finale-là par rapport au fait que le pays hôte est le pays où l'équipe joue ou pas. Là. C'est sûr que c'est un facteur important. Mais la Coupe Davis se cherche encore, c'est mon point. Et c'est pas évident de gérer son calendrier. Isal, tu le sais très bien, là, avec les fenêtres en plus de Coupe Davis et tous les deux. Okay. C'est un gros challenge en ce moment.
Très encombrant.
Est-ce qu'on devrait suivre le format de la Coupe ATP et le faire sur une semaine et demie, deux semaines, avec, je sais pas, un format de tournoi plus normal par équipe. Je sais pas, t'en penses quoi? C'est ça la solution?
Mais déjà que qui ont enlevé les 5 rubber puis les 3 de 5, déjà ça l'aide.
Oui.
Énormément, là, parce que mettre des 3 de 5 4 fois dans l'année, là, ça commence à être compliqué en maudit.
Oui. Ils l'ont gardé pour la finale, par contre, si je me trompe pas. Hein?
Là, ça se peut, j'ai pas suivi, mais là, mettons, des formats qu'il y a juste 2 simples, un double, au lieu de 4 simples, un double, puis des 2-3 au lieu des 3-5, déjà, là, ça va alléger, puis il va y avoir plus de monde qui vont vouloir le jouer. Là.
Nico, toi, tu regardes beaucoup de sport là, dans la vie. Là. Je le dis, tu es un des meilleurs généralistes au Québec, je le pense sincèrement. On a la chance de t'avoir avec nous au podcast sur la ligne. Ça serait quoi ton format préféré pour écouter ce tournoi-là? Est-ce qu'il faudrait se baser sur, je sais pas, ce que la NCAA fait? Est-ce qu'il faut, je sais pas, parce que le format revient à chaque année, à chaque Coupe Davis, on parle du format.
Ben, le format, c'est le problème, puis on le dit. On fait beaucoup l'allusion à la Coupe du Monde du tennis, pas mal à la Coupe Davis. Alors, prenons le format de la vraie Coupe du Monde, et je parle pas des qualifications, mais bien de l'arrêt dans le calendrier. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre une semaine, deux semaines, trois semaines dans la saison, même en septembre, en octobre, lorsque tous les tournois, ou presque, sont terminés, on fait la Coupe Davis, ça devient un événement, ça devient un immanquable, ça devient un X sur le calendrier.
C'est un rendez-vous.
Ce que c'est pas présentement, parce que je fais le parallèle avec le monde du soccer, que Hugues connaît beaucoup aussi. Que
c'est une fois aux 4 ans, par contre. C'est pas à chaque année.
On s'entend,
la différence.
Dans le suivi, je pense que si on avait un rendez-vous, qu'on se dit, OK, à chaque fin septembre, c'est la Coupe Davis, un petit peu comme la Coupe Laver. Ça deviendrait peut-être plus un incontournable parce que même dans le processus de Coupe du Monde au soccer, ce qui fait perdre beaucoup d'intérêt aux gens, c'est l'espace que ça occupe dans le calendrier. C'est-à-dire qu'on a les Coupes CONCACAF, ensuite on a les pré-qualifs, ensuite les vrais qualifs. Il y a trop de compétitions, il y a trop d'étapes pour atteindre la Coupe du Monde. Là, avec la Coupe Davis, c'est un petit peu le cas et on perd de l'intérêt. Je suis convaincu que nous, les gars, on est dans le milieu du tennis et parfois, je pense qu'on mentirait si on disait qu'on suit vraiment à la lettre tout ce qui se passe, qu'on comprend vraiment tout ce qui se passe. Alors, je me mets dans les souliers de gens qui suivent ça de loin. Ce que le Canada a fait en fin de semaine, ou en fait la semaine dernière, c'est tellement difficile à comprendre. C'est tellement peu comestible comme information.
Ben, c'est ça.
C'est tellement dur à suivre que je peux comprendre pourquoi les gens ont de la misère à s'attacher à cette coupe-là, parce que lorsqu'on parle à des Eugène Lapierre, à des Louis Borfiga, même à Hugues, la Coupe Davis, c'est mythique, c'est classique, c'est un événement de renom. Mais pour des gens de ma génération, si on va au parc et on demande « qu'est-ce que ça vous dit la Coupe Davis? », ça leur dit absolument rien.
Ouais.
Alors, c'est sûr que c'est mélangeant, surtout quand tu dis que le Canada a perdu la dernière rencontre, là, sont dans le groupe, ils sont qualifiés, là, tu dis « ok, ça, c'est, comment ça se passe? » Hein?
Ben là, c'est une exception. Là, c'était comme des lucky losers, en fait. On est rentré par la porte d'en arrière.
Exactement.
Ça ne devait pas être l'équipe A, là, il faut le dire, parce qu'au départ, pour cette ronde-ci, ni Félix ni Chapeau étaient inscrits. Félix est arrivé par la suite. Donc, c'est une année effectivement extrêmement compliquée parce qu'on avait perdu, je crois, contre la Hollande, si je me souviens bien, au tour précédent. Donc, on devait pas être dans les phases de groupe finale. Finalement, Félix revient. On se qualifie en phase de groupe finale et on passe en quart de finale pour la grande finale maintenant, fin novembre. Mais c'est très compliqué tout ça. T'as pas de momentum derrière la Coupe Davis. C'est ça qui est compliqué au niveau de bien suivre l'événement.
Tu sais, Alex, toi, tu es un gars de hockey junior, puis tu me demandais quel pourrait être un format acceptable. Dans mon humble avis d'amateur de sport, là, généraliste, là, mis à part les Jeux olympiques, mon tournoi préféré, mon événement préféré, c'est le championnat mondial de hockey junior. Pourquoi? Parce que c'est une tradition qui revient année après année. Ça dure 2 semaines, on sait à quoi s'attendre, les meilleurs sont là, puis à chaque année, on a hâte à ce tournoi-là, parce que c'est devenu un incontournable. C'est devenu pour tous les amateurs de sport, là. Ceux qui aiment le hockey et ceux qui ne l'aiment pas, pendant le temps des fêtes, c'est devenu un immanquable. Alors, la Coupe Davis pourrait être un petit peu ça. Au début octobre, on pourrait dire à chaque année, les 2 premières semaines d'octobre, ça commence bien l'automne, petit café à la main, un bon souper, on écoute la Coupe Davis, mais ce n'est pas le cas présentement. Il n'y a pas de régularité et c'est le problème.
On en discute beaucoup plus que je pensais, mais je trouve la discussion vraiment intéressante. En même temps, ce qui est compliqué, messieurs, c'est que il n'y a pas de place dans le calendrier du tennis. Dans tout le sport professionnel, le tennis du calendrier, c'est le plus psychopathe. Les gars jouent 11 mois et demi par année, prennent 2 semaines de congé à Noël, puis recommencent au mois de... le 2 janvier, ils doivent frapper des balles en Australie pour commencer. Tu sais, l'horaire du joueur de tennis... Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais,
avec les, à Noël, en Australie.
En Australie, bon, mais... Fait que, tu sais, ça donne... Moi, j'aimais où la Coupe ATP était placée pour lancer la saison. Je pense que c'est intéressant là. Mais Hugues, tu as raison. T'sais, on s'en parle souvent. Nous, on est des fans de tennis. On va l'écouter, tous les tournois, puis on va en parler du mois de fin septembre jusqu'à décembre, là, jusqu'à la fin des activités ou à peu près. Mais le fan de tennis moyen, pour l'essentiel, décroche souvent après l'US Open. Va peut-être revenir un petit bribe pour Paris ou pour la fin de la Coupe Davis, mais je sais pas, tu sais, je suis d'accord avec toi. La case horaire pour la fin septembre n'est pas idéale, puis non plus, c'est difficile de garder un intérêt sur toute l'année, alors que tu joues un match 3 mois plus tard, là. Je sais pas.
Oubliez pas, les gars, que c'est pas l'ATP ni la WTA qui gère la Coupe Davis. Hein. C'est sous l'égide de l'ITF.
Exact, l'ITF.
C'est maintenant Cosmos qui a repris les droits sur la Coupe Davis. C'est le promoteur maintenant. Ils peuvent pas mettre une fenêtre de 3 semaines durant l'année ou de 2 semaines pour dire on fait un nouveau tournoi. Ça sera pas possible. Évidemment, il n'y a pas de points. Là, c'est que le prestige de
mais non, mais ils ont acheté des points, non? Ils avaient acheté des points pendant un instant.
T'as des points ATP en Coupe Davis, je pense pas.
Il y en avait racheté, ou c'est à la Coupe ATP qui ont racheté des points?
Ouais, la Coupe ATP avait des points.
Et les gars, je peux te soulever une question aussi qui, je pense...
Non, merci, on passe au prochain. Non, ça,
d'être questionné, c'est que on parle du manque d'intérêt. Est-ce qu'il y a le fait aussi que ça semble être un tournoi moins important pour les grandes têtes du circuit? C'est-à-dire que lorsque Félix a confirmé qu'il allait être là, on a tout de suite, OK, wow, chouette, Félix va y être. Ce qui n'était pas un acquis. Et je pense que ça aussi, le fait que, bon, Djoko n'était pas là pour différentes raisons, mais même dans les dernières années, on a vu moins Federer, on a vu moins Nadal, ces grands noms du tennis, on dirait se prêter moins à l'exercice, probablement, Alex, comme tu l'as dit, en raison du calendrier.
À cause de l'horaire.
Mais ça veut dire que si tes meilleurs joueurs ne sont pas là, imagine la Coupe du Monde sans Messi et Ronaldo.
Donc, c'est le format qui faisait en sorte que les grands noms du tennis, les grandes vedettes, je vais le dire comme ça, y allaient de façon ponctuelle. Est-ce que je peux avoir un impact si je vais à cette ronde-là pour passer à la prochaine ronde? Peut-être, mais je n'irai peut-être pas à celle d'après. Donc, ils choisissaient. C'est très rare les grands noms qu'ils faisaient, comme John McEnroe à l'époque, qui adorait la Coupe Davis, qui n'en aurait jamais manqué. Mais les Federer, Nadal,
Murray
choisissaient un peu plus de façon ponctuelle sur l'année où ils joueraient.
Oui, à un moment donné, l'Angleterre était rendue dans le groupe 2, je pense.
Exact.
Ça n'avait aucun sens. Murray,
exact.
C'était toujours, c'est ridicule. Là,
ça, c'est intéressant, mais ça revient à un commentaire que j'ai fait. Est-ce qu'on ne devrait pas, mettons, on jase. Je sais que ça pousserait l'establishment du tennis dans certains raccoins. Là. Mais si on le faisait une fois aux 4 ans, comme la Coupe du Monde, et là, tu crées un événement, tu rends la Coupe Davis essentielle. Une comme fois aux 4 ans, les gars... Comme les Olympiques. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, tu le fais à 2 ans d'intervalle avec les Olympiques, là. Tu dis, bon, mais là, ça, c'est une année olympique, parfait. 2 ans plus tard, on fait la Coupe.
Comme la coupe du monde. Soccer, d'ailleurs. Ils vont alterner avec les Olympiques.
Exact. Enfin, je sais pas. Je propose ça, et là, peut-être, ça aura un événement. En même temps, j'imagine que l'ITF voudrait pas se priver de ces revenus-là. Parce que là, tu pars 3 ans. Est-ce que tu vas rattraper des revenus sur une seule année? Je sais pas. Je sais pas. Mais, messieurs.
Je pense que depuis aussi le fait, tu sais, comme l'engouement pour une équipe comme le Canada, mettons, là, qui jouait à Valence, c'est sûr qu'il y a vraiment moins d'engouement, tu joues pas devant chez vous. Tu sais, à Valence, un match Corée-Canada, c'est sûr que c'est vide. Tu sais, on peut pas s'attendre à ce que ça soit plein. Puis même si c'est aux 4 ans, mais le match Corée-Canada sera pas plus plein. Là.
Puis ton réseau de télé, là, c'est pas nécessairement évident d'avoir un match à 8 heures le matin puis d'aller tirer des codes d'écoute. Puis pour la Corée, ça va être à l'inverse. C'est sûr que c'est compliqué. Mais enfin, on en parle à chaque année, messieurs. Hugues, tu semblais vouloir
acheter... On est dans le Final 8, on peut être très fiers. Moi, je suis vraiment content parce que je ne m'attendais pas à ça il y a peut-être un mois avant même de... avant qu'on sache que Félix était pour jouer. Ça se trouve, Gabriel Diallo et Alexis auraient fait une super performance, mais on ne s'enlignait pas pour aller aux phases finales. Puis moi, je suis content que le Canada, d'un point de vue... positionnement sur l'échiquier mondial, tant du côté masculin que féminin, se retrouve au final des coupes par pays. C'est un grand signe que ça envoie à la planète tennis.
Tu fais bien de le souligner. Bon, pour en revenir à la question initiale de Chucky, messieurs, est-ce que la performance de Félix contre Alcaraz, elle est encourageante? Ouais. Elle est non seulement encourageante, mais elle est surprenante. Je ne suis pas sûr qu'un gars qui aurait, même en dépit du fait qu'il était fatigué et tout ça, pas sûr que vous auriez gagé sur le fait que Félix aurait battu Alcaraz dans le contexte. Je ne sais pas, Nico, aurais-tu gagé ça?
Non, mais entendez-moi bien. Hugues l'a souligné, Alcaraz n'était pas dans les meilleures dispositions. Ça n'enlève rien au jeu de Félix. Il a joué du tennis équilibré, du tennis régulier. Il a vraiment très, très bien joué. En contrepartie, Alcaraz venait de vivre probablement les émotions les plus fortes de sa jeune carrière. Le décalage a sûrement joué dans là-dedans. Il y a eu du voyagement. Il a très peu dormi. Il y avait de l'engouement. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Au tennis, on le sait à quel point les impondérables peuvent être cruciaux. Là, ça a été le cas. L'opposition a quand même été... Ça n'a pas été un match atroce pour Alcaraz.
Non, c'était un beau match.
Il était peut-être juste pas au summum de ses capacités. Il n'était peut-être pas non plus dans les meilleures dispositions. Victoire de Félix qui va demeurer dans les archives. Lorsqu'on va regarder dans quelques mois, si le rejoue compte, on va dire, OK, ben, dernière victoire de Félix à la Coupe Davis, Alcaraz, mais il faudra se rappeler du contexte.
Izad, moi, je suis à peu près convaincu que tu n'es pas si surpris que ça. Parce que on se parle ici et là. Puis là, tu sais, on se parlait d'Alcaraz numéro 1 mondial. Tu me dis, bon, en ce moment, son coup droit est une coche au-dessus de tout le monde. Puis je te dis, il va remporter combien de grands chelems? Puis un des premiers noms que tu m'as dit, attention, il va peut-être avoir Félix d'impact aussi.
Ouais, moi, en fait, quand j'attendais le match avec quand même impatience, avant le match, je parlais à un de mes amis. Je pensais que Félix était favori avant le match.
T'es sûr? Tu voyais Félix favori? Ouais, intéressant.
Avant le match, ben, premièrement, surface complètement différente. Il revient du US Open extérieur. Là, il jouait dans un stade. Le terrain avait l'air très, très lent. Je voyais Alcaraz extrêmement épuisé. Encore une fois, comme Hugues et Nico ont dit, je veux pas rien enlever à la victoire à Félix. C'est une victoire qui va sûrement être importante pour son momentum d'automne, pour le reste de l'année. Mm. Mais je pense qu'il y avait beaucoup à se rattraper aussi du match contre la Corée. Il y avait un petit peu un couteau entre les dents qui hey, je suis venu ici pas pour perdre deux matchs de suite. J'ai pas décidé de représenter mon pays pour ça. Puis exactement ce que Hugues a dit, là, je l'ai vécu le cirque médiatique de New York après une victoire de Grand Chelem, c'est épuisant. Honnêtement, il a pas dû jouer dans les deux, trois jours après l'US Open. Il a volé juste parce qu'il a 19 ans puis il a dit bon, je vais aller aider mon pays. Mais j'aurais même pas. Ils l'ont mis, je pense, pour le show. Ouais. Dès qu'ils vont voir Félix contre Carlos. Mais ouais. J'aurais même pas été surpris qu'il joue pas la rencontre. Là. Qu'il soit juste là au cas où. L'Espagne était. Tu regardais les équipes. C'était pas mal sûr qu'ils se qualifiaient pour les quarts de finale.
Ouais.
Il y avait une équipe solide. Fait que moi, très content. Est-ce que cette victoire-là veut dire beaucoup pour la carrière à Félix? Je crois pas. C'est pas comme si c'était un gars qui était un Vachek qui l'aurait battu, ça aurait été différent. Mais Félix, je pense qu'il est dans le mix anyway avec lui. Je pense qu'il aspire à des grandes choses aussi. Puis j'aurais gardé les préparations des deux à ce niveau-là. Je pense que la préparation à Félix valait beaucoup plus cher que celle d'Alcaraz. Fait que moi, j'aurais mis mon petit 2$ sur Félix.
Est-ce que c'était la première victoire de Félix contre un numéro 1 mondial? Je me souviens pas, messieurs. J'ai pas vérifié la stat. Oui. Je vous lance complètement en dessous de l'autobus.
Il n'a jamais battu Djokovic puis Nadal, ça, c'est sûr.
Ni Medvedev. Ni Medvedev, bon. Quand Medvedev était numéro 1.
Donc, alors, il y a des bonnes choses.
Ça, c'est André Agassi.
Ok, ouais, ben écoutez, je trouve ça intéressant. Hugues, toi, tu voulais ajouter quelque chose? Es-tu dans la même veine que Nico et Izad? Tu étais surpris? Moi, j'avoue, j'étais surpris. Je m'attendais pas à ce que Félix y batte Alcaraz. Mais je comprenais qu'il arrivait pas dans des conditions idéales non plus.
Ah non, non. Pour moi, c'était. Je suis pas si surpris que ça, moi non plus, pour les raisons que j'ai évoquées avant. S'il y avait un moment où Alcaraz était prenable, c'était bien la semaine dernière et Félix le fait. Puis c'était un moment où Félix devait le faire en plus. Donc, je suis pas tant surpris que ça qu'il l'ait battu, non.
Mais les gars, je repose la question. Est-ce que ça aurait été décevant que Félix perde?
Oui.
Oui.
Très.
Mais pourquoi? C'est champion du US Open. OK, oui. Oui. On s'entend le contexte. Mais là, tu perds contre Alcaraz, champion du US Open, le joueur peut-être connaît la meilleure saison de l'année puis qui est numéro un mondial. Décevant. Écoute, là, c'est difficile d'être déçu quand tu perds contre ce gars-là. Là.
Pas décevant à ce niveau-là. Ça aurait été décevant dans
le résultat des choses. Ben oui. Oui, voilà. Oui.
Tu peux jamais avoir quelqu'un de perdre contre un numéro 1, là. Je pense pas que c'est possible.
C'est un peu ça. Okay. Si c'est ça la question, dans ce cas-là, oui. Mais par contre, il y a. Tu sais, on a parlé beaucoup de la victoire contre Félix, contre Alcaraz, mais la victoire en double, messieurs, contre les Espagnols. Marcel Granollers, ça, c'est un gars qui a fait des finales de Grand Chelem en double à une trolley. Il a gagné, si je me souviens bien, les finales de l'ATP en double. Il a fait plusieurs finales. C'est une grosse victoire en double et c'est pour moi, c'est con à dire, là, mais c'est la victoire la plus importante du Canada, à mon avis, cette semaine. C'est cette victoire-là en double. Je suis fou de penser ça, Isa Junot.
Non, c'est sûr que c'était un autre gros morceau. Je te dirais pas que Pedro Martinez, c'est sa force. Par contre, le double, Granollers, je suis très, très d'accord avec toi. Mais Pedro Martinez, c'est un gars de milieu 50 au monde en simple. Je sais pas c'est quoi son pedigree en double. Je ne crois pas. J'ai pas regardé, là, je te dis ça. Out of the blue, je crois pas que c'est un gars qui fait beaucoup de runs dans les grands chelems. Granollers, beaucoup, oui. Mais en même temps, moi, je considère Vachek comme un des meilleurs joueurs de double au monde aussi. Il a gagné des grands chelems. Après, bon, Félix, moi, j'en parle souvent avec mon frère, avec des connaisseurs de tennis. J'ai une confiance en tant que quand tu es dans les top 10, top 15 joueurs mondiaux en simple, si tu voulais jouer en double toute l'année, tu serais dans les top 10, top 15 meilleurs joueurs en double. Fait qu'il step up un peu comme ça, je pense que c'était bien. Est-ce que c'était attendu? Est-ce que c'était facile? Non. Mais tu as Vachek, un vieux routier qui comme on a dit, qui a gagné des grands chelems. Fait que. C'est sûr que c'est un gros morceau, mais encore une fois, mon petit esprit canadien, qu'on a toujours été une nation de double, me dit qu'on devrait toujours gagner le point de double.
Ouais, ben, puis aussi, Félix, c'est pas un mauvais joueur de double, comme tu le dis. Là, il a été champion de Masters 1000 en double là, avec Hubert Hurkacz, là, c'était à Paris. Messieurs, qu'on complète rapidement ce qui s'est passé à la Coupe Davis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que bon, le fait qu'on a décidé de faire jouer Gabriel Diallo dans le contre la Serbie, c'est que bon, on était pas mal assuré, on était qualifié et là on a décidé de tester les jeunes. Est-ce que c'est ça qui s'est passé?
Vas-y, Zad.
Ah oui,
Zad. Ben je pense que oui, je pense que Dantsevich avait une confiance, on était pas qualifié sur papier à ce moment-là. Par contre, il nous manquait une victoire, là, je pense, pour s'assurer d'une qualification. Je pense que ça démontre le respect et la confiance aussi qu'ils ont envers les jeunes. Diallo, il a une très belle été. Ils ne voulaient pas l'amener pour rien, j'imagine. Ils ont décidé de le mettre. Vachek était blessé, il savait très bien aussi. Il fallait qu'il prenne une décision entre Alexis et Diallo. Je crois que niveau style de jeu, Diallo a peut-être plus de chances de déranger Jerry, que j'ai déjà joué d'ailleurs, qui est vraiment un joueur solide. Donc, ils ont sûrement misé sur le service à Gab. Mm. Fait que je suis très content de l'avoir joué. Encore une fois, que ce soit Gab ou Alexis, j'aurais été content des deux. J'étais content qu'ils jouent. Puis c'est pour ça que j'aurais aimé ça qu'Alexis puisse finir son double. Puis, sachant qu'il est blessé, il aurait pu mettre Gabriel aussi encore en double. Félix, c'est normal, rendu là, de l'économiser, puis lui, il go on, sa saison n'est pas finie, mais rendu là, mets les deux jeunes, puis laisse-les finir leur double. C'est juste cette petite affaire-là qui m'a un petit peu chatouillé, mais je suis très content pour les jeunes.
Là. Messieurs, autre commentaire avant qu'on conclue sur la Coupe Davis?
Ce que Isad dit, copier-coller.
Ben, c'est difficile d'argumenter contre un gars qui connaît le tennis. Je ne veux rien nous enlever, mais pas mal plus que nous. Ben, Hugues est un méchant connaisseur et en plus nous a détruit à la coupe sur la ligne, tous un après l'autre, sans pitié. D'ailleurs, je ne sais pas si on a parlé de ça. On a parlé de la photo, mais on n'a pas dit. Je pense que Hugues avait détruit tout le monde, incluant toi, Nicolas Richard, là, qui a choqué à plusieurs reprises sur balle de bris.
Les services ont été absolument atroces.
Mais... Oui, il faut qu'on invite Isad la prochaine fois que je mette mon titre en jeu, que je vais sûrement perdre à ce moment-là. Donc, soyons honnêtes.
Moi, j'invite Isad que s'il invite son partenaire de frappe, Nick Kyrgios. Isad, reste avec nous encore quelques minutes, ça ne te dérange pas. On va faire une courte pause et on va revenir sur ce qui s'est passé à Chennai, notamment les nouvelles des Canadiennes. Il y a une jeune joueuse très prometteuse que toi, tu as vu jouer plus souvent. Donc, tu vas être un bon analyste pour nous pour pouvoir en parler. On s'en reparle après la pause.
Vivez une expérience culinaire hors du commun au restaurant de l'Hôtel Montville. Découvrez le concept original du menu à partager, entièrement conçu par notre chef Florimond Anoto. Pour réserver une table, rendez-vous sur hotelmontville.com. Réservez une deuxième nuitée à l'Hôtel Montville et profitez d'un rabais de 30%. Une magnifique vue du centre-ville ainsi qu'un séjour mémorable vous y attendent. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre.
Messieurs, il y avait beaucoup d'action quand même cette semaine. Il y avait la Coupe Davis, mais on a suivi Chennai, notamment parce que on a vu une certaine Eugénie Bouchard performer. Est-ce que ça vous a surpris que Eugénie se rende aussi loin dans le tournoi? Nico, je commence avec toi.
Ben, je pense que oui, autant, bon, tu le sais, là, je n'ai jamais perdu espoir en Eugénie. Quand même un bond de plus de 500 places. Là. C'est quand même pas banal pour elle, je pense, dans son retour. Bon, elle n'est pas non plus dans le top 30. On va se calmer un peu. Mais quand même, ce quart de finale-là m'a surpris énormément. Puis elle avait l'air en confiance. Elle avait l'air d'avoir du fun. Et elle avait l'air surtout très fit. Ce qu'on regarde beaucoup après un retour de blessure comme ça, elle n'avait pas l'air incommodée plus qu'il n'en faut. Bon, en fin de saison comme ça va être dur de prendre du momentum là. Voyons voir ce qui va arriver en début de saison prochain, au mois de janvier, février, si elle revient, si elle est en forme, mais je n'ai que du positif à dire, d'autant plus qu'elle a aussi joué du double, ce qui me fait croire qu'elle est vraiment en bonne forme, sinon elle se serait économisée ou elle aurait limité ses actions. Là, elle a joué du simple, du double, dans les deux cas ça a somme toute bien été. Que du positif pour Eugénie cette semaine.
Hugues, tu penses quoi de cette première séquence victorieuse depuis mars 2021? Elle n'avait pas gagné depuis mars 2021, Eugénie.
Exact. Ben, moi, ce que je remarque, c'est quand même le sérieux de son retour parce qu'elle enchaîne les tournois en ce moment. Elle avait une mauvaise performance à Vancouver, on se souvient, il y a quelques semaines au Canada. Cette semaine, elle joue encore en Corée. D'ailleurs, Rebecca Marino y sera aussi. Donc, elle enchaîne les matchs. Ce que je suis content de voir, justement, c'est cet effort sérieux qu'on voit de Jenny en ce moment. On verra ce que ça va donner. Jimmy Connors, qui l'a coaché un petit peu, vous vous souvenez, il y a quelques années, il a dit « You're playing your best game », c'est quand même bien qu'il ait envoyé un signal aussi pour l'encourager en même temps. Donc, moi, je suis en mode attente, on verra, mais c'est quand même encourageant de voir qu'elle peut se faire un quart de finale. J'aurais aimé ça la voir contre l'éventuelle gagnante Frvirtova, dont on va parler un petit peu plus tard. Je n'ai pas des attentes hyper élevées, mais c'est quand même cool de la voir faire un essai en ce moment pour pousser sur son niveau. Là.
Et ben, moi, ce que j'aime, là, puis Isad, tu me diras si je me trompe, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui a envoyé Eugénie à la retraite. Il y a beaucoup de monde qui ont dit Eugénie, elle ne traite pas tant que ça sur le tennis, elle préfère des selfies. Puis en dépit du fait que, en tout cas, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais moi, il n'y a pas un entraîneur chez Tennis Canada qui m'a dit qu'Eugénie, ce n'était pas une fille qui travaillait fort, que ce n'était pas une fille qui était prête à mettre les efforts. Puis je peux te dire, je pense qu'il y a d'autres joueurs dont on m'a parlé à travers certains entraîneurs, mais jamais on a remis l'éthique de travail d'Eugénie en question. Et je pense qu'elle est en train d'envoyer le message suivant, c'est « Ma retraite, là, je vais la prendre sur mes propres termes. C'est pas vous qui va m'envoyer à la retraite. » Puis, quand tu atteins les quarts de finale, le tournoi WTA, t'es peut-être pas mûr pour la retraite. Je sais pas, t'en penses quoi, Isad?
Ouais, je suis très d'accord avec toi. En même temps, elle a seulement 28 ans. Le tennis se joue de plus en plus vieux. Elle a encore du temps. Comme tu as dit, moi, j'ai été sur le terrain avec elle à plusieurs reprises. Son éthique de travail n'a jamais été reproché. Après, bon, on n'est pas dans sa peau, puis elle a eu des blessures. Fait que le monde qui ne sont pas dans le milieu du tennis peuvent dire n'importe quoi parce qu'ils ne la voient pas ou whatever. Mais quand tu as des blessures majeures, puis tu te fais sortir du circuit pendant un an et demi, c'est pas si facile que ça. Fait que là, je pense qu'on commence à voir qu'elle a un désir de jouer en premier. C'est bien beau de dire n'importe quoi, mais est-ce qu'elle aime ça? Là, tu le vois qu'elle aime ça, qu'elle a un désir. Je crois qu'elle avait beaucoup de pression aussi quand elle était jeune. Si tu m'avais demandé est-ce qu'elle va devenir top 5 un jour dans sa vie, moi, je t'aurais dit non. Est-ce que je pense plus qu'elle devrait être autour de 40-50 mondiales? Oui. Est-ce qu'elle a le potentiel, les armes pour se rendre là? Je crois que oui. Si elle met l'épaule à la roue, je pense qu'elle peut se rendre encore à ce niveau-là. On s'entend, c'est pas comme si elle a fait un tournoi qu'elle a fait des bons résultats. Là. Elle a quand même une bonne saison en général. Fait qu'elle peut retourner là si... Le quart de finale de 250, comme tu viens de dire, Alex, c'est vraiment pas mauvais. Tranquillement. Je pense qu'il faut pas non plus rusher puis s'attendre à ce qu'elle devienne top 100 dans 3 mois. Mais Eugénie a définitivement les moyens de se rendre là. Je sais pas c'est qui l'accompagne ces temps-ci. Je sais pas c'est quoi son entraîneur. Est-ce qu'elle est par elle-même? Est-ce qu'elle a décidé d'avoir juste un coach physique? J'ai aucune idée.
Mais... Es-tu disponible, toi, Isad Junot?
Pas pour l'instant, non. Mon enfant prend plus de temps. Mais je souhaite la meilleure des chances, puis l'avoir joué semaine après semaine, mais c'est un commencement, puis je pense que ça part de là.
Et aussi, Nico, c'est intéressant de ça, mais c'est une autre bonne performance pour Rebecca Marino, qui continue un retour qui, honnêtement, le grand public ne le sait peut-être pas, mais c'est phénoménal ce qu'elle a réussi à faire, Rebecca, de continuer qu'elle se soit qualifiée pour le US Open, et là, c'est un autre quart de finale dans le cas de Rebecca. Ouais.
Ah, fait très bien, Rebecca, ça va super bien. Là, depuis cet été, depuis cet hiver, là, moi, j'ai quitté avec elle. J'avais fait le mois de février au complet avec elle quand elle a gagné son tournoi en Californie, le Challenger. Puis depuis ce temps-là, elle a des très, très, très bons résultats. Je suis très content pour elle.
Avant qu'on parle de Frvirtova, et c'est pour ça que je t'ai gardé, Isad, juste un commentaire rapidement sur Gabriela Dabrowski. Messieurs et Chaki nous soulignent avec brio. C'est pas avec sa partenaire des derniers moments, Olmos, c'est avec Louis Stéphanie. Nico, c'est une autre belle victoire pour Gabriela.
Oui, puis ça m'a étonné qu'elle revienne aussi aisément avec Stéphanie parce qu'on se rappelle qu'elles ont fait le plus beau temps ensemble l'année passée. C'est avec elle qu'elle avait gagné notamment l'Omnium Banque Nationale à Montréal. Là, avec Gigi Olmos, ça avait aussi très, très bien été, notamment pendant la saison de Terre battue. Et que Dabrowski remporte un 12e titre, ça me confirme seulement qu'elle est tellement une joueuse sous-estimée, probablement la plus grande championne de l'année chez Tennis Canada. Elle a vraiment une année phénoménale encore. Elle s'impose comme étant l'une des meilleures joueuses au monde en double. Maintenant, la prochaine étape, on le sait qu'elle peut gagner de gros tournois, qu'elle peut livrer la marchandise, mais là, ce sera le grand chelem. L'an prochain, son objectif principal, ce sera d'atteindre une finale, de remporter un titre du grand chelem qui lui est dû, je pense, elle est rendue à cette étape-là, et de la voir gagner comme ça encore une fois, tout sourire, tellement une belle fille à regarder aller sur le terrain, une belle joueuse qui a du fun à jouer au tennis. Je pense que c'est l'essentiel. Un 12e titre, c'est pas banal et c'est important de le souligner pour Gabby Dabrowski.
Ouais, c'est, je voulais qu'on puisse en parler rapidement parce que, bon, comme tu le dis, c'est pas banal. Et oui, la prochaine étape, ce sera un titre à Grand Chelem, mais elles avaient perdu, elle et Olmos, contre Krejcikova et Siniakova, qui est peut-être la meilleure paire de doubles au monde. Là, je veux dire, c'est deux filles qui ont tout gagné ensemble, puis ils ont gagné le US Open également. Alors,
elle a gagné en mix, Gabby en a un en mix, ça, c'est sûr.
Ouais, en double mix, mais en double mix, elle a l'Australian Open en 2018, Roland Garros en 2017, elle les a en double mix, mais en double conventionnel, c'est pas le cas. J'ai parlé de Krejcikova et Siniakova, c'est un lien parfait pour parler d'une autre Tchèque dont on va entendre parler beaucoup, Linda Frivortova, qui a gagné le tournoi de Chennai, celui où Eugénie et Rebecca y étaient. Isab, toi, j'imagine que t'es pas surpris parce que ça fait longtemps que tu nous en parles de Frivortova, de elle et de sa sœur plus jeune qui est peut-être encore meilleure selon ce que tu nous as déjà dit.
Ouais, exactement, mais justement, la dernière fois que je suis parti là, sur la WTA avec Rebecca, on avait eu la chance là, de partager le terrain avec elle pendant deux semaines complètes. Une semaine que Rebecca avait perdu contre elle en finale d'un tournoi, puis la semaine suivante que Rebecca a joué en double avec elle, puis qu'elle l'avait battue au premier tour du tournoi. C'était une fille que déjà qu'on avait parlé au podcast, là, qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, qui je pense qu'il y a un avenir qui est promis dans le tennis. Qui elle aussi, là, on a parlé d'éthique de travail avec Eugénie, là, que Linda, moi, quand j'avais les deux semaines que j'ai passé avec elle, là, vraiment rien à dire. Elle a passé énormément beaucoup de temps sur le terrain. C'est sûr qu'elle est jeune. Puis je pense qu'à ce moment-là, il faut que tu passes un peu plus de temps que, mettons, une Rebecca qui a 31-32, là, qui a l'énergie, c'est pas la même chose. Mais elle est déjà très bien entourée. Je pense qu'elle a eu des laissés-passer dans des gros tournois aussi déjà. Je pense qu'on n'est pas les seuls qui la voient s'en venir. Elle a une armée derrière elle. Puis l'avoir gagné des 250 comme ça, c'est qu'un début. Là, je pense qu'elle ne va pas en jouer beaucoup des 250. Là.
Oui. 17 ans, top 100 mondial. À quel point c'est exceptionnel d'être aussi jeune, bien installé dans le top 100 mondial et avec un titre WTA?
Ben, je pense que c'est dans la ligne des grandes joueuses, des bonnes joueuses. Je ne dirais pas que c'est une exception. On voit des Coco Gauff, on en voit là, des bonnes solides, même des Leila, des Bianca qui ont gagné qui ont fait des grosses performances à 18 ans. Mais je te dirais que la courbe d'apprentissage chez des filles, quand tu arrives là à cet âge-là, t'es en avance sur la compétition. Puis ça montre que tu vas sûrement faire des bonnes choses. Quand tu regardes la première mondiale, les gars, il y a beaucoup de calibres là, qui sont pas très, très âgés là, du côté féminin. C'est pas comme « wow, c'est la première fois de l'histoire », mais en même temps, tu dis « ok, c'est une candidate sérieuse là, dans les prochaines années à prendre au sérieux pour des gros titres. »
C'est important de souligner cette victoire-là de Linda Frivortova. 17 ans, je le rappelle. Elle est maintenant bien installée dans le top 100 mondial. Yes, Hugues?
Ben, la dernière à avoir remporté un tournoi à 17 ans, c'était Coco Gauff l'année dernière à Parme. Elle avait 17 ans et 70 jours. Frivortova, Linda, 17 ans et 141 jours. Donc, un peu plus vieille, mais toujours dans la même année. Écoute, c'est la seule joueuse née en 2005 qui est dans le top 100. Cette année, vous imaginez 2005, les gars. Donc, c'est toute une performance, là.
Ouais, c'est spectaculaire. Et gardez en tête que sa sœur Brenda a aussi énormément de talent. Alors,
pas très loin derrière, là, Brenda, là, elle est quoi, 200 quelques, là?
Elle est, attends, je vais te dire ça, c'est quoi son rang présentement à Brenda? Elle est, non, pas pour l'instant. Là. Présentement, elle est comme 500e. Mais, okay. Mais ça doit être parce que j'imagine qu'elle a perdu des points. Ben, c'est ça, je sais pas beaucoup. Elle a 4, elle a 15 ans. Alors, ah, c'est un peu normal. Elle n'est pas vraiment sur le tour, là, mais vous allez nous entendre parler. Les Fro Virtova, un nom à retenir. Isa Gino, merci infiniment de ta présence une fois de plus au podcast Sur la ligne. De notre côté, nous, on va faire une courte pause. Et au retour, un des sujets de l'heure. Roger Federer fait ses adieux. On va parler de la Coupe Laver. Merci encore, Isa.
Salut, boys, merci.
Vivez une expérience culinaire hors du commun au restaurant de l'Hôtel Montville. Découvrez le concept original du menu à partager, entièrement conçu par notre chef Florimon Anoto. Pour réserver une table, rendez-vous sur hotelmontville.com. Réservez une deuxième nuitée à l'Hôtel Montville et profitez d'un rabais de 30%. Une magnifique vue du centre-ville ainsi qu'un séjour mémorable vous y attendent. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre.
Merci une fois de plus à Isa Gino que j'ai coupé en envoyant la pause. Toujours intéressant de l'avoir avec nous. Je dis souvent, nous autres, on est des fans de tennis. C'est beaucoup plus que des experts, même si on connaît ça, mais d'avoir un gars qui est sur le circuit avec les filles, c'est toujours
un ami du Radio Podcast, assurément. Puis c'est un expert collaborateur qu'on va avoir encore régulièrement cette année.
Exact. Parce que Nicolas Richard, lui, ne connaît rien au tennis, alors ça nous prend quelqu'un pour venir supporter.
Je suis un cancre.
Messieurs, là, je suis content de vous parler parce que je sais que ça se peut que la discussion prenne des allures de débat un petit peu. Là. On fera pas le tour de la question au complet aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. Mais Roger Federer annonce sa retraite. OK. Est-ce qu'on est surpris, messieurs? Hugues, je commence avec toi. Est-ce qu'on est surpris?
Non, moi, ça fait un bon bout de temps que je vous dis, il ne reviendra pas, donc je ne suis pas du tout surpris. Je pensais qu'il ferait la Laver Cup dans des conditions physiques assez bonnes, ce qui ne sera visiblement pas le cas. Je pensais qu'il terminerait son année à Basel, à Bâle, son tournoi maison qu'il a remporté maintes et maintes fois avec Halle, c'est les deux tournois qui a remporté le plus de victoires. Je pense que c'est 9 ou 10, là, c'est des chiffres quand même impressionnants. Mais ce n'est pas du tout une surprise qu'il arrête. Mais c'est quelque chose qu'on attendait, mais maintenant qu'on le sait, c'est triste. Tout le monde du tennis est triste, je pense. Je disais ce matin en onde avec notre collègue Jean-Charles Lajoie, premier compteur, que si aujourd'hui on pleure la reine Elisabeth, vendredi, le week-end prochain, on va pleurer le roi Roger qui sortira du tennis et surtout l'impact qu'il laisse derrière et tout ce qu'il laisse derrière qui ne sera jamais, selon moi, égalé. Mais on va en parler un petit peu plus.
Oui, exact. Nico, est-ce qu'on est surpris de cette annonce-là?
Non, évidemment, on n'est pas surpris. J'aurais quand même pensé qu'il étire sa carrière, entre guillemets, jusqu'à Wimbledon. Ça fait presque un an et demi, je vous en parle. J'aurais pensé qu'il aurait annoncé, sans plus jouer entre, là, mais je pensais qu'il aurait mis un terme à sa carrière à Wimbledon, là où il a gagné tellement de fois, et je pense que c'est là qu'il est devenu une légende. N'en demeure pas moins que la transition s'est quand même bien faite, dans la mesure où évidemment que cette nouvelle a été triste, a été difficile à digérer, mais quand même, n'a pas jeté personne par terre. C'est pas comme si du jour au lendemain, un jeune joueur dans la fleur de l'âge ou en plein succès prenait sa retraite. Là. Fed, ça faisait presque un an et demi qu'il n'avait pas joué du bon tennis de qualité. On savait que ça s'en venait. C'est un moment qu'on redoutait. Il est enfin arrivé. Mais je pense que de terminer ça avec son tournoi, entouré des joueurs avec lesquels il a compétitionné tout au long de sa carrière avec Djoko, avec Nadal, avec Andy Murray, avec des légendes aussi entourées. Rod Laver, bon, c'est sa coupe. Il va y avoir Bjorn Borg, John McEnroe. Bref, je pense que les plus grands noms du tennis vont y être, peut-être même Billie Jean King, qui sait. Ce sera assurément un beau moment et c'est bien choisi pour Roger Federer, qui, lui, n'a pas choisi de faire ça en plein US Open.
Exactement.
Ah, mais... en fait, l'annonce n'a pas été faite au US Open, elle a été faite à Toronto, dans le cas de Serena Williams, c'est ce que tu sous-entends, là, Nico. Cela dit, je suis pas mal convaincu que Roger était au courant que Serena allait prendre sa retraite et il voulait laisser Serena le dire avant. Et c'est symptomatique de la classe qu'il a. Écoute, quand il a annoncé qu'il allait faire son retour à Bâle, moi, j'ai été surpris de voir qu'il ne fasse pas son retour J'ai été surpris d'apprendre la nouvelle. Je pensais qu'on allait l'apprendre à Bâle un peu plus tard cette saison, mais je pense que ça va de soi, va pouvoir faire un au revoir sur le terrain. Je pense qu'il s'est rendu compte que physiquement, c'était terminé. Et messieurs, j'ai sorti sa fiche parce que l'avant-dernière défaite qu'il aura subie, ça aura été aux mains de Félix Auger-Aliassime. Quand même, un petit fun fact intéressant. Est-ce que vous allez regarder la Coupe Laver avec plus d'attention, messieurs, parce que Federer, va faire ses adieux? Est-ce que vous attendez à le voir jouer beaucoup, Hugues? Je commence avec toi.
Ben oui, évidemment, encore une fois, je le dis, tout le tennis va pleurer son roi cette semaine, à juste titre. Moi, je pense que cette semaine, puis on a beaucoup discuté du dossier du GOAT, qui est le meilleur. Et moi, j'ai pris un recul sur les stats. Là. Je ne vais pas vous parler des 22 ou 21 ou 20 grands chelems. Je m'en fous du fait qu'il a été numéro 1 pendant 237 semaines, qu'il a 103 titres. Mais c'est pas là que ça joue pour moi. C'est quel impact il a sur la planète tennis et sur le sport en général, Federer. Et c'est pour ça que, pour moi, dans mon livre, tu le sais, il est le plus grand. Parce qu'il aura touché à un niveau qu'aucun autre joueur de tennis, je pense, a pu le faire. Je pense que personne ne va pleurer quand Djokovic va prendre sa retraite. Bien qu'on va admirer ce qu'il aura accompli au niveau des chiffres, puis au niveau de la manière qu'il l'a accompli au niveau physique et tout ça. Mais je pense que Federer est dans une classe à part qui le met tout de suite au niveau des plus grands athlètes de tous les temps, là, des Tom Brady, Tiger Woods, auxquels très peu de tennisman peuvent aspirer. Donc oui, je vais regarder chaque minute qu'il va nous donner encore, soit sur le terrain, soit derrière le banc. Je suis sûr qu'on va voir Frédéric Gay de TVA Sport verser quelques larmes aussi parce que c'est son chouchou. C'est une époque qui se termine et l'impact qu'il laisse au tennis va durer pendant plusieurs années. Beaucoup de jeunes joueurs ont recommencé à jouer à une main à cause de lui aussi. Ça, c'est un exemple seulement au niveau du revers, évidemment. Donc, je pense qu'on perd le plus grand joueur de tous les temps cette semaine. Il faut lui rendre hommage.
Bon, ben Nico, Hugues a répondu à la question avant même que je la pose. Est-ce que Roger Federer est la chèvre de GOAT, le plus grand joueur de tous les temps, côté masculin à tout le moins?
Ben, je pense que oui, puis c'est pas un secret. Là, depuis le temps qu'on fait le podcast, je les ai à maintes reprises. Et comme un petit peu comme Hugues, au-delà des statistiques, au-delà bon, des titres, je pense que ce qui le différencie et c'est ce qui le propulse au sommet, c'est que tu as nommé Nadal, Djoko, qui sont dans la conversation. Tu as nommé Tom Brady, tu as nommé Tiger Woods, qui sont aussi de très grands champions. Mais ce qui distingue Roger de ces quatre athlètes-là, c'est qu'il fait l'unanimité. Il n'y a personne qui peut dire quelque chose de négatif sur Roger, tandis que c'est le cas pour peut-être, aussi minime soit-il, pour les quatre autres athlètes. Roger Federer a révolutionné son sport et je me répète, mais lorsque j'ai lu le livre de Christopher Clary du New York Times sur Roger Federer, ce qui m'avait marqué, et c'est ce que lui m'avait confié aussi lors de l'entrevue, c'est que Roger est le plus grand parce qu'il est vulnérable, parce que c'est un champion qui est comme les autres. Federer, à la fois, peut être l'un ou le plus grand champion de l'histoire, mais peut aussi être considéré comme le plus grand perdant de l'histoire parce qu'il a perdu des matchs de championnat, de tournoi majeur, alors qu'il avait balle de match. Rappelez-vous son titre en Australie 2006 ou 2007, alors qu'il s'est effondré en larmes. Après sa victoire, c'était du jamais vu. Jamais auparavant, des hommes de cette ampleur s'étaient permis d'être aussi vulnérables, d'être aussi faillibles. Et je pense que dans l'intimité, Federer a rejoint beaucoup de gens. La plupart des commentaires qu'on a vus au cours des derniers jours, que ce soit de Nadal, de Casper Ruud, de Djokovic, de Kyrgios, on parle beaucoup du lien entre Federer et ses fans. Et pourquoi les gens s'intéressait à lui, c'est parce que même s'il était dans une autre classe, dans une autre galaxie, on pouvait quand même s'identifier à Roger Federer, qui est un gars qui vient de la classe moyenne en Suisse, qui était un jeune surdoué, oui, mais qui a dû quand même travailler d'arrache-pied, qui a dû changer son comportement, qui avait une vie très, très, très normale, qui a encore une vie aujourd'hui normale avec sa femme, avec ses enfants, qui a sa maison, qui fait pas ben, de...
normal, il peut pas aller faire son épicerie tranquille.
Non, on s'entend que c'est pas un gars qui se pète les bretelles, c'est pas un gars qui...
Il est relatable, c'est ça que tu veux dire.
Exactement, on peut se...
L'expression en anglais. Hein.
Exactement, on peut se reconnaître en lui dans divers aspects de notre vie, et je pense que c'est ce qui fait que Roger... Puis aussi, il faut le dire, là, c'est un des gars sur le circuit qui peut s'exprimer dans à peu près toutes les langues. Et ça aussi, eux, qui est un gars de marketing, je pense que ça peut rejoindre aussi anglais, français, allemand, suisse-allemand, maîtrise un petit peu le mandarin. Ça aussi, je pense que sur les cinq continents, ça fait écho et Roger Federer se retire sans aucun doute comme le plus grand joueur de tennis de l'histoire, mais surtout le plus grand ambassadeur de ce sport-là.
Messieurs, vous m'avez presque convaincu. C'est tellement un privilège de travailler avec vous. Vous êtes tellement pertinent et intéressant. Mais il faudra qu'on débatte de tout ça parce que, mine de rien, vous m'avez parlé de tout sauf de tennis dans le cas de Roger Federer. Et on parle quand même du plus grand joueur de tennis de l'histoire. Moi, je pense, je vais pas lancer le débat, là, je ne vais pas lancer un pavé dans la mort. Vous savez à quel point Federer, j'ai pensé pendant longtemps qu'il était le plus grand de tous les temps et je n'exclus pas cette possibilité-là. Mais je pense que dans le cas de Roger Federer, c'est encore un peu trop tôt. Hugues, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus ou Nico, je suis d'accord, mais pour moi, c'est un peu trop tôt parce que les candidats avec lesquels il est en compétition pour le titre, je pense qu'on est tous d'accord que ce sont Djokovic et Nadal. Et ils sont encore en action. Et Djoko, on va peut-être gagner d'autres grands chelems. Je comprends là, qu'il n'y a pas la même aura, si on veut, et le même impact hors du terrain que Roger Federer. Mais Nadal, il y a un argument à faire parce que lui aussi fait beaucoup l'unanimité, va passer à l'histoire comme un des plus grands de l'histoire, le plus grand fighter de l'histoire. Il est aussi très classe, Rafael Nadal, et il a deux grands chelems de plus que Roger Federer. Pour moi, c'est un petit peu trop tôt pour clore le débat, mais on s'en reparlera. Je sais pas. Est-ce que pour vous, c'est absolument... Hugues, toi, c'est confirmé, peu importe si Nadal gagne deux autres grands chelems, ce sera Federer reste en avant.
Oui, je pense que le niveau de profondeur à laquelle il a touché les gens, fans de tennis et autres fans de sport, sera jamais inégalé. J'avoue, puis je vous l'ai dit aussi, que Nadal est remonté dans mon estime à un autre niveau aussi cette année par sa manière d'avoir gagné en Australie, à Roland-Garros, comment il se bat encore malgré ses blessures. Et je m'attends à ce qu'il y ait encore des nouvelles stats qui tombent pour Nadal et pour Djokovic. Mais malgré ça, celui dont les gens vont parler encore dans 25 ans comme le plus grand ambassadeur du tennis de l'histoire, ça va être Roger Federer.
Ben, ça, le plus grand ambassadeur, on peut peut-être être 100% d'accord pour ce qui est du plus grand joueur de tennis, en tout cas pour moi, c'est un peu trop tôt. Nico, toi, ton idée est faite, même si Nadal redevient numéro un mondial, remporte deux autres grands chelems, en a quatre en avant de Federer, tu vas continuer de... Et je peux pas vous en vouloir, là, messieurs, parce que l'argument que j'ai et que je martèle depuis des années sur Billie Jean King est exactement celui que vous m'apportez pour Roger Federer. Billie Jean King n'est pas une meilleure joueuse de tennis que Serena Williams, elle n'a pas accompli ce que Serena Williams a accompli sur le terrain. Alors, je vous comprends d'aller dans cette direction-là, parce que l'argumentaire que j'utilise pour Billie Jean King, pour dire c'est l'athlète la plus importante. Maintenant, je ne sais pas si c'est la joueuse de tennis la plus importante de l'histoire, la plus grande joueuse de tennis, enfin.
Oui, il y aurait deux points. Puis je sais que le premier est extrêmement débattable, mais c'est un truc que j'ai vu revenir souvent dans les derniers jours lorsque je lisais des trucs sur qui est le plus grand. D'abord, je pense que c'est vraiment, là, ça revient à chacun. C'est extrêmement personnel comme débat. Puis je peux pas.
Mais c'est comment on le définit également. C'est une question d'abord et avant tout de comment on le définit avant de dire. Mais là, on ne se lancera pas là-dedans.
Pour ce qui est de Nadal, on va régler le débat. Pour moi, cette année, il est devenu deuxième devant Djoko. Oui. Pour moi, c'est indéfendable. Ce qui est à l'extérieur, puis même sur le terrain, Nadal, souvent, je l'ai un petit peu négligé tellement j'étais en amour avec Federer. Je me disais, bon, c'est le rival, mais il est rendu à un point où on ne peut que s'incliner devant cette réalisation sans borne que de gagner des grands chelems dans les conditions dans lesquelles il est présentement. Fait pour moi, Nadal est les deux, puis ça ne changera jamais. Cependant, un point qu'il faut souligner, là, c'est qu'il ne faut pas oublier que Federer a quand même 6 ans de plus que Nadal et 5 ans de plus sur Djokovic. Je ne sais pas si c'est si important que ça, mais quand même, à 35 ans, comme a Nadal et Djoko, Federer gagnait encore des grands chelems. Donc, est-ce que Nadal aurait gagné Australie si Roger avait été du même âge, dans les mêmes conditions qu'il était lorsque Roger avait 35 ans, il y a 6 ans. Rappelez-vous, Roger, il y a 6 ans, était encore dominant, était encore l'un des meilleurs au monde. Donc, pour moi, le fait que Nadal et Djoko continuent d'engranger des grands chelems, sachant que Federer est sur les lignes de côté, notamment parce qu'il est plus âgé, donc plus blessé, pour moi, il y a un argument. L'autre point, c'est qu'au-delà des victoires, il faut le dire, puis Hugues, tu le sais, tu étais un joueur comme moi, Federer en tant que style et de technique, il n'y a personne de comparable. Et son coup droit, c'est parfait. Et c'est pas bon, il y a certains qui disent que la perfection n'existe pas. Là. Dans le cas de Roger Federer, son coup droit, il est parfait. Et tantôt, tu dis, Alex, qu'on parlait pas de tennis, ben ça, c'est un argument, je pense, qui est important. Parce que de gagner ou pas, il y a des impondérables, il y a des surprises. Mais en tant que joueur de tennis comme tel, je pense que c'est Federer qui a le plus beau jeu, la plus belle technique. Et ça, pour moi, c'est un argument qui est aussi hyper important parce que ce perfectionnement-là, du coup, c'est un travail d'une vie. Et je pense que c'est Federer qui l'a amené le plus loin parmi les trois.
Intéressant, messieurs. On fait un peu de temps supplémentaire, là, mais c'est Federer. Fait que je veux rapidement en parler. Chucky vous demande vos meilleurs souvenirs de Federer. Un souvenir de Federer, Nico.
Wimbledon 2008, c'est le match qui m'a donné envie de jouer au tennis.
Moi, c'est Roland-Garros 2009, quand il a complété son grand chelem, quand je pensais qu'il ne gagnerait jamais Roland-Garros. Il s'était fait lessiver en finale un an avant par Nadal. Je pense que ça avait été 6-2, 6-0, 6-1. Il n'y avait pas eu de match en 2008. Il gagne en 2009. On peut dire merci à Robin Söderling qui avait éliminé Rafael Nadal en quart de finale quand même. Et le moment où Agassi lui remet le trophée des mousquetaires, là où 10 ans, Agassi avait aussi complété son grand chelem, pour moi, c'est un moment inoubliable. Federer qui se met à pleurer, il se met à pleuvoir sur Roland-Garros. J'oublierai jamais ce moment-là, je suis dans les estrades.
Et moi, je donnerais un poumon pour avoir du sable de Roland-Garros 2009.
Ah, ben, je peux t'en passer, j'en ai à la maison, tu le sais.
Moi, ce sera à Wimbledon, c'est 2012, si je me souviens bien, cette victoire-là contre Andy Murray, avec Andy Murray qui avait ce match-là en main. On ferme le toit et finalement, Roger Federer revient dans ce match-là. Andy Murray en larmes. Et c'est ironique parce que c'est après ça que ça a débloqué pour Andy Murray et qu'il est allé remporter une médaille d'or olympique et des grands chelems. Alors, moi, c'est un. Yes.
Petite parenthèse que j'ai oublié de souligner.
T'as le droit. T'as le droit, c'est Federer.
En plus de 1000 matchs, n'a jamais abandonné un seul de ses matchs.
Excellent
pour
point.
Pour moi, ça aussi, c'est la marque d'un grand champion parce que même s'il était blessé, même si des matchs qu'il perdait, il s'est dit, pour le gars qui est devant moi puis pour les milliers de fans qui ont payé des tickets, c'est pas vrai que je vais sortir de ce terrain jusqu'à temps qu'il y ait balle de match. Et pour moi, ça aussi, c'est la trace d'un grand champion.
Excellent. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai parlé de ça à la radio cette semaine avec Maxime Vanhoute, d'ailleurs. Puis j'ai dit, on parle souvent de la classe de Federer. Pour moi, c'est la plus belle marque de classe de Federer. C'est cette statistique-là.
Tu sais, rappelez-vous juste la finale contre Zverev à Montréal il y a 3 ans, je pense. Son dos était
détruit. Mais détruit, ça a l'air.
Mais deuxième service était plus fort que ses premiers, puis j'exagère à peine. Il a quand même terminé ce match-là. Puis Zverev le savait. Tout le monde le savait que c'est terminé. Mm-hmm. Federer, comme un seul homme, termine ce match-là pour les gens et pour Alex Zverev.
Ben, messieurs, c'est un grand qu'on perd. Peut-être le plus grand, ça c'est certain. Mais on aura l'occasion de le regarder une dernière fois à la Coupe Laver. Messieurs, avant que je vous quitte, juste vous dire que l'équipe Europe sera composée du Big Four. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer devraient y être. Avec Stefanos Tsitsipas
et Casper Ruud.
Et Casper Ruud, Andy Murray. Félix devrait être à la Coupe Laver avec... Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, Frances Tiafoe et Jack Sock. C'est une équipe intéressante, celle de l'équipe monde, mais ça va être compliqué. Là,
pour, et John McEnroe derrière le banc de l'équipe World. Et je pense que Borg sera encore derrière le banc de l'équipe Europe cette année.
Alors, ça va être. Tu veux dire l'inverse? Tu veux dire John McEnroe avec l'équipe. Ah, t'as dit l'équipe monde, excuse-moi, c'est moi dans ma tête qui a mélangé les trucs. Messieurs, on se reparlera de tout ça, de Federer, là, ça va, on fera, j'exclus même pas qu'on fasse éventuellement peut-être un épisode spécial dans le coin de Noël pour parler du plus grand, là, puis se faire un débat en bonne et due forme. Merci infiniment pour votre participation. Je rappelle qu'on est le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. On est diffusé sur BPM Sport et toutes les bonnes plateformes de balado. On est en collaboration également avec Tennis Canada. Et bien sûr, ces paroles sages, Nicolas Richard, je te donne, comme c'est la tradition, le mot de la fin.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde et merci Roger.